Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bienvenue dans le carnet de région proposé par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Dans les titres cette semaine, allons-nous vers une sortie de crise de la filière viticole? La réponse de Boris Calmette. Les 15e assises des petites villes de France se sont tenues jeudi et vendredi dernier à Castelnaudary, avec la présence notamment de la ministre Marylise Lebranchu. Ce samedi 22 septembre est décrété journée internationale contre les gaz de schiste et la fracturation hydraulique. Après l'abrogation de 7 permis d'exploitation cette semaine par le chef de l'État, des questions se posent encore. Notre région est particulièrement sensible au risque d'inondation. Depuis 10 ans, une société montpelliéraine accompagne les collectivités et les entreprises. Septembre, mois de rentrée littéraire au niveau national, mais aussi en région. À Fin-Amande, en Lozère, l'exposition transversale, une muséographie itinérante et transmédia. La filière viticole en Languedoc-Roussillon est-elle en train de sortir de la crise? Après une dizaine d'années difficiles, il semble qu'actuellement le vin se vende de mieux. Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault a rencontré Boris Calmette, président de la Fédération des caves coopératives du Languedoc-Roussillon, élu récemment président de la Confédération des coopératives vinicoles de France.
Depuis quelques années, nous sommes arrivés à des prix de vente qui sont quasiment satisfaisants. Ils ne le sont pas tout à fait encore. On estime qu'il y a encore un rattrapage par rapport à ce que nous avons connu et par rapport à ce que sont nos coûts de production, il y a un rattrapage nécessaire. Nous allons dans les jours qui viennent, tous ensemble, l'ensemble de la profession de cette région, mettre à la connaissance de tous un communiqué qui fixera les choses de façon très claire. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais donc nous sommes en train de sortir, parce qu'on ne sort pas du jour au lendemain de la crise, sur des cultures pérennes en particulier, avec des produits qui, d'une année sur l'autre, sont stockés, etc. Donc tout cela est un long processus. Il a été entamé il y a 3 ans. Je pense que cette année, nous allons avoir, en termes de prix, quelque chose qui va s'améliorer. Un nécessaire rattrapage devrait être mis en place. Cependant, la faible récolte va conduire à des rendements hectares très faibles. Or, vous savez que notre chiffre d'affaires, c'est le rendement hectare qui multiplie le prix. Le prix va augmenter, certes, nous le ferons tout pour. Le rendement va baisser, quand on va multiplier l'un par l'autre, je crains que nous soyons un chiffre d'affaires inférieur à ce que nous avons connu l'année dernière. Donc c'est en ces termes-là que répondre facilement à la question « est-ce qu'on est en sortie de crise ?» En termes de prix de vente de vin, on est sur quelque chose qui peut être satisfaisant dans le courant de l'année 2013, nous ferons tout pour. En termes de rendement, il est ce qu'il est aujourd'hui, moins 30% en moyenne sur nos exploitations. On va se retrouver avec un chiffre d'affaires qui ne sera pas totalement satisfaisant cette année.
Un dernier mot, comment vous l'expliquez cette sortie de crise?
Alors on l'explique par différentes choses. On l'explique déjà par un équilibre du marché mondial, puisque la production mondiale a baissé ces dernières années. Le vignoble mondial en termes de surface a baissé. La consommation mondiale s'est maintenue, voire a augmenté. Je parle bien de marché mondial parce que Languedoc-Roussillon est dans le marché mondial, quoi qu'on fasse. Donc le marché au niveau mondial s'est tendu. Ensuite, nos produits ont évolué en termes de correspondance aux parts de marché, correspondance au goût des consommateurs. Nos produits se sont adaptés, ont évolué. Nos outils de production, vignes, on a refait le vignoble. Outils de transformation, en s'appuyant sur l'enveloppe OCM, on a investi lourdement dans nos outils de transformation, que ce soit en cave coopérative ou en cave particulière. Donc tout ça a permis d'obtenir des produits fruités tels que les attendent les consommateurs. Donc on a progressé aussi à ce niveau-là. On a progressé aussi dans l'entente de la profession dans cette région, dans la circulation de l'information qui permet, même si nous sommes nombreux à mettre du vin en marché, face à peu d'acheteurs, à avoir une force différente parce qu'on se parle et parce que donc on a des informations en temps réel.
Boris Calmette, président de la Fédération des caves coopératives du Languedoc-Roussillon. Cette année, la récolte s'annonce encore plus faible que l'an dernier dans la région. Alors que les vendanges ne sont pas encore terminées, la récolte 2012 est estimée à 11,5 millions d'hectolitres contre 14,7 en 2011.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les 15e assises des petites villes de France ont réuni à Castelnaudary 350 maires ainsi que d'autres élus territoriaux. Il faut savoir que les communes de moins de 25 000 habitants représentent 30% de la population française. La ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, était présente à Castelnaudary et elle a tout d'abord visité l'hôpital. On l'écoute.
J'ai demandé à pouvoir visiter cet hôpital
rencontrer les personnels de direction, mais l'ensemble des personnels, parce qu'ici, il a fallu faire face à des choses, à des moments difficiles, hein, fermeture de la maternité, du service de chirurgie. Et cet hôpital a su, avec ses équipes, passer ce cap, qui était un cap extrêmement difficile, en réorganisant sa fonction, donc avec un pôle urgence qui a été maintenu et qui est de qualité, et puis à côté donc des services de médecine parfaitement organisés et accompagnés d'une grande évolution de l'imagerie médicale. C'est-à-dire qu'on a ici un pôle qui est très performant et qui a su accompagner ses personnels dans cette reconversion. Et je pense que c'est surtout ça que je voulais voir, à la fois ce que c'est que le stress des fermetures, et que sans doute ça va nous aider pour d'autres sites à bien lire que la fonction publique hospitalière n'est pas figée sur son histoire nationale ou locale, mais qu'elle est capable d'évoluer et d'accompagner des reconversions de qualité.
Les syndicats du personnel attendaient la ministre de pied ferme pour lui faire part de leurs inquiétudes, une représentante de Force ouvrière.
Nous avons été reçus en tant que groupement départemental Info Santé de l'Aude, donc avec des représentants de tous les établissements. On a profité de cet entretien pour rappeler des situations particulières d'établissements, comme par exemple la maison de retraite de Rieux-Minervois, comme les maisons de retraite d'Espéraza, de Bellepêche. On a beaucoup appuyé sur les secteurs personnes âgées. Nous n'avons pas parlé d'embauche ou d'augmentation de salaire, mais je crois qu'en étant terre à terre, c'est les conditions de travail au quotidien des personnels et les conditions d'accueil des personnes qui nous préoccupent surtout, prioritairement.
Et dans ces assises des petites villes a été évoqué l'acte 3 de la décentralisation, dans lequel le schéma actuel autour de la région, du département et de la commune n'est pas bousculé, mais il est seulement mieux expliqué aux électeurs. Marie-Lise Lebranchu.
Il y a eu une tentative à la fois de montrer les élus locaux du doigt, mais aussi de montrer les fonctionnaires comme des gens a priori nantis et peut-être de mentalité un peu archaïque. Je dirais au maire qu'au fond, que ce soit la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, tous nos fonctionnaires sont engagés dans l'écriture du 21e siècle et non pas arc-boutés comme j'ai l'impression qu'on a voulu le faire croire. Et c'est vrai que l'action des collectivités territoriales et en particulier des petites villes dans l'organisation des territoires va être extrêmement importante, mais il faut que ce soit clair, clairement défini, qui fait quoi, avec quel enthousiasme bien évidemment, mais aussi avec quelle fonction publique. Et nous avons à parler des passerelles, de la mobilité, des carrières, pour que nos élus ne soient pas en difficulté d'ingénierie, ne soient pas en difficulté de tâches de gestion, parce qu'ils n'auraient pas à leur côté les personnels capables de mener des tâches complexes. Donc.
Et à ces assises des petites villes à Castelnaudary vendredi, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a confirmé la tenue très prochaine à Paris, en octobre, des états généraux de la démocratie territoriale, l'expression ouverte de tous les maires de France pour l'approfondissement de la décentralisation. Une préséance était d'ailleurs organisée samedi dernier au Conseil général à Carcassonne avec 200 élus présents.
Carnet de région.
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce samedi 22 septembre est décrétée Journée internationale contre les gaz de schiste et la fracturation hydraulique. Sur toute la planète et dans une quarantaine de pays à travers le monde, les collectifs contre les gaz et huiles de schiste appellent à ce global frackdown. En France, 4 rassemblements ont lieu à cette occasion. Et pour le Sud, les collectifs se réuniront dans le Gard, à Saint-Christol-des-Alès. Et ce, au lendemain de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier, au cours de laquelle le président de la République a annoncé l'abrogation de 7 permis de recherche et d'exploitation. Une déclaration saluée par l'ensemble des acteurs présents, mais qui oublie une soixantaine d'autres permis, dont 4 dans le Gard et l'Ardèche, comme le rappelle au micro de Yves Defago de Radio Grille Ouverte, Alain Roubineau et Annie Durand, membres de 2 collectifs gardois.
Nous avons été assez déçus, après avoir bien écouté le discours de Monsieur le Président de la République, de s'apercevoir que, jusqu'à présent, rien n'est changé par rapport à la législation antérieure. Et sur notre région, c'est 4 permis qui sont maintenus et qui n'ont pas été abrogés. Alors, quand Sarkozy est venu, il a fait la même annonce, on va abroger des permis dans les Cévennes, et on s'est aperçu que effectivement 3 étaient partis, mais 4 restaient. Et là, on a un petit peu le même effet d'annonce. On va abroger 7 permis. Tout le monde dit bah, c'est fini. Et en fait, pour nous, rien ne change.
Oui, c'est ce qu'on a entendu effectivement samedi, relayé par les différents médias. J'ai reçu aujourd'hui un courriel qui me dit que la rencontre lors de cette conférence environnementale du représentant des collectifs anti-gaz de schiste a été bénéfique, puisque le directeur de cabinet de la ministre de l'écologie a pris contact avec le représentant des collectifs.
Absolument. Légèrement en avance, nous avions déjà un contact auprès d'un des conseillers de la ministre en charge de la réforme du code minier. Et d'ailleurs, un rendez-vous vient de nous être confirmé, c'est tout frais. Nous rencontrerons M. Schramm le vendredi 28 à Paris. Et nous aurons à cette occasion l'occasion donc de lui exprimer la situation locale, les desiderata des élus, de la population envers cette problématique sociétale très importante.
Et vous pensez que ce rendez-vous va déboucher sur quelque chose de concret ?
C'est la première fois depuis la lutte, qui dure maintenant depuis un an et demi, que des représentants des collectifs sont entendus et invités. Ce n'est pas nous qui avons demandé, nous avons été invités à rencontrer des conseillers, voire des directeurs de cabinet. Donc c'est une avancée, nous le saluons, et nous y allons vraiment tout en étant extrêmement lucides et pas du tout dupes de certains effets d'annonce et de ballons d'essai.
Parce que si vous êtes reçu effectivement par le ministère de l'Environnement, je pense que le ministère du redressement productif aura également son mot à dire.
Actuellement, dans les informations qui m'ont été confirmées ce matin, les conseillers de M. de Montebourg ne sont pas prévus dans les entretiens. Mais comme vous le soulignez, il est fort probable qu'ils soient présents.
Au-delà de cette rencontre au ministère, reste la situation administrative sur le terrain qui suit son cours, à savoir la convocation par les préfectures du Gard et de l'Ardèche, des maires des communes où devraient bientôt s'effectuer les premières recherches d'hydrocarbures par la société Move Oil, détentrice du permis du bassin d'Alès. Des maires fortement soutenus par leurs concitoyens et par les collectifs, dont Alain Roubineau.
Le préfet a très bien pris la mesure de l'opposition qui a été présentée à ces projets, à la fois par les élus et par la population, et il s'est engagé à faire remonter cette opposition très forte au niveau des ministères, voire, ça a été sa conclusion, au plus haut niveau de l'État. Donc il n'est pas sûr que cette démarche exploratoire puisse être conduite. Ensuite, vous avez tout à fait raison, jeudi 27, 5 maires de l'Ardèche seront reçus par le préfet de l'Ardèche à Privas pour exactement la même démarche, mais nous serons présents, nous serons aux côtés des maires ardéchois et nous renouvellerons la même opération.
Pas de doute, on n'a pas fini d'entendre parler des gaz de schiste. Le Languedoc-Roussillon, une région particulièrement vulnérable au risque d'inondation du fait de sa géographie, de ses reliefs et de son urbanisation croissante. La société Prédic Service, basée à Montpellier, accompagne depuis 10 ans les collectivités et les entreprises dans la gestion de ce risque. Un sujet de Jeanne Busson de Delta FM.
Prédic Service est une société qui aide les entreprises et les collectivités à gérer le risque inondation. Installée dans l'agglomération de Montpellier, elle emploie une vingtaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Alix Roumagnac, créateur et président de cette société, nous présente le risque inondation sur le territoire.
Une inondation, c'est au départ un événement météo qui va apporter de la pluie, mais cette pluie tombe sur un bassin versant qui est plus ou moins aménagé, plus ou moins urbanisé, qui va prendre des cours d'eau et puis qui va déborder. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a, notamment en région Languedoc-Roussillon, de plus en plus de constructions, d'urbanisation. Donc on a de plus en plus de constructions en zone inondable. L'aménagement des bassins fait que les bassins versants sont de plus en plus urbanisés. Donc la transformation de pluie en débit va être plus forte. Donc ça aussi, c'est un facteur qui va dire être aggravant en matière d'inondation. Et puis, il y a débat sur le sujet, mais les événements, nous, de novembre 2011, nous semble clairement être indiqué qu'il y a un impact. La problématique du réchauffement climatique joue sur l'élévation de la température en Méditerranée. Et l'élévation de la température en Méditerranée est clairement associée à l'importance des événements majeurs.
Le concept de Predict Service est donc basé sur trois axes. Pour gérer la crise, il faut se préparer avant, être opérationnel pendant l'événement, et puis être capable de faire un retour d'expérience sur tel ou tel événement pour pouvoir améliorer la connaissance.
Et donc il y a un concept qui est le concept de plans communaux de sauvegarde et de système d'alerte qui s'est développé en gros depuis 2003, 2004, 2005, sur lequel c'est l'objet, hein, c'est de dire on ne peut pas éliminer le risque, il faut vivre avec et il faut le gérer de manière à ce qu'il ait le moins de dégâts et d'impact possible. Et c'est vraiment tout ce travail-là. Et donc c'est là-dessus que l'on va travailler sur se préparer avant, agir pendant et puis s'améliorer derrière. Et en ce sens, le département du Gard est un département qui est assez moteur en France, puisque c'est le département sur lequel ça a été le premier à lancer toute la création des plans communaux de sauvegarde. Et c'est le département de France où il y a le plus de plans communaux de sauvegarde opérationnels à ce jour. Mais parce que justement, c'est malheureusement les événements qui ont fait que le département a été très sensibilisé à ce sujet-là, quoi.
Alors à l'approche donc des grandes équinoxes d'automne et des pluies attendues, est-ce qu'il faut avoir peur de ce risque inondation ?
Il faut avoir une double approche, une approche de sérénité, parce qu'il faut, dans des moments difficiles, savoir être serein et être vigilant, hein, parce que on est en début de saison, la Méditerranée est très chaude, donc on risque de voir dans les semaines ou les mois qui viennent quelques événements un peu importants qui vont nous passer sur nos têtes. Il faut bien réagir, avoir les bons réflexes et se rapprocher des collectivités pour connaître justement les éléments du plan de sauvegarde et avoir ces bons réflexes, hein. Alors on le dit souvent, la plupart des accidents se passe par des gens qui prennent un véhicule lors des événements comme ça pour aller sur la route, chercher les enfants à l'école, etc. C'est difficile à entendre, mais sachez que les enfants sont en sécurité dans les écoles, ils vont être gérés, ils vont être mis en sécurité, et que la prise de risque, c'est si vous allez les chercher, vous vous mettez en danger, vous risquez de les mettre en danger, vous mettez d'autres personnes en danger. Donc voilà, hein, les bons réflexes, restez en sécurité, et tout va bien se passer en adoptant ces réflexes-là.
C'était Alix Roumaniac, créateur et président de la société Predict Service.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce mois de septembre est celui de la rentrée littéraire et la région fait aussi la sienne avec des auteurs régionaux ou non dans les 94 maisons d'édition de la région. État des lieux et enjeux avec Marie-Christine Chaze, présidente de l'association Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, qui accompagne les acteurs du livre en région. Elle répond aux questions d'Héloïse Lévesque de Radio Aviva.
Il y a 30 publications en Languedoc-Roussillon, livre-lecture. Alors il y a un chiffre qui m'a été donné qui est de 646 romans qui vont être publiés en France, dont 426 romans en français. Nous 30, ça représente quand même 7%, ce qui exprime quand même une très grande vitalité au niveau de l'édition en Languedoc-Roussillon.
Il y a 94 maisons d'édition en Languedoc-Roussillon.
Il y en avait 90 et depuis peu de temps, 4 maisons d'édition se sont venues s'installer en région. Bon, tout à l'heure, la personne qui nous a présenté la littérature jeunesse s'est installée à Mende, en Lozère. Alors, au niveau de la répartition, c'est bien réparti. Par exemple, dans l'Hérault, il y a 37 maisons d'édition, en Lozère, 3. Dans les Pyrénées-Orientales, 13, dans le Gard, 26 et dans l'Aude, 11.
94 maisons d'édition, 30 livres. Comment ça se fait qu'il n'y a même pas un livre par maison, c'est normal ?
Ah oui, mais là, je parle d'une période, d'une durée entre le 17 août et le 31 octobre. C'est vraiment... Oui, la rentrée littéraire. Voilà, mais sinon, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de publications. Il y a vraiment un très grand dynamisme, hein, au niveau des publications. Et je disais aussi tout à l'heure que le nombre de publications est légèrement supérieur à la moyenne des publications françaises. Donc, c'est quand même un bon signe.
Beaucoup de maisons d'édition ne publient pas forcément pendant la rentrée littéraire, mais dans d'autres périodes.
Alors oui, la question qui a été posée, est-ce que vraiment il faut s'aligner sur la rentrée littéraire ? Parce que finalement, ça manque aussi de visibilité. Est-ce qu'on peut occulter cet événement? Je pense que non, mais ce n'est pas le seul et il faut persévérer. Et je pense que toutes les maisons d'édition en Languedoc-Roussillon ont vraiment un désir, une très grande volonté d'innover et de s'aligner et de suivre bien sûr tous les auteurs qu'ils publient régulièrement et sur une longue durée.
Comment vivent ces maisons d'édition? Est-ce qu'elles vivent bien justement? Est-ce qu'elles arrivent bien à vendre?
Alors il y a quand même une certaine fragilité, hein. Il y a l'arrivée du livre numérique qui bouleverse pas mal les choses. Bon, en ce qui concerne, vous me posez la question de l'émission de Languedoc-Roussillon, nous essayons de suivre au plus près, de répondre aux besoins et aux attentes des éditeurs, ne serait-ce que par la formation professionnelle ou le suivi des dossiers pour les subventions, pour les demandes de subventions pour participer au salon, des demandes de subventions auprès des différentes collectivités, que ce soit l'État ou la région. Et bien sûr, il y a quand même différentes maisons d'édition au niveau des chiffres d'affaires qui diffèrent. Vous avez 56% de maisons d'édition qui réalise un chiffre d'affaires net entre 0 et 100 000 euros. 25% entre 100 et 300, 9,8% entre 300 et 500 et 9,8% plus de 500 kilos euros. Donc bon, la majorité quand même est plutôt entre 0 et 100. En ce qui concerne les maisons d'édition, il y a une certaine homogénéité au niveau de la structure. C'est-à-dire que ce sont des petites structures, il n'y a pas de grandes maisons d'édition comme Gallimard, comme Michel.
On parlait du livre numérique à l'instant, quelles conséquences ça peut avoir? Parce que ce livre numérique, il sera payant quand même. Donc finalement,
bien
c'est...
sûr, il sera payant. Et quelles conséquences? Et bien, d'abord, il faudra gérer comment on édite un livre numérique. D'ailleurs, il y a 4 éditeurs qui ont monté une association et qui ont édité un logiciel, qui ont créé un logiciel d'édition numérique. Bien sûr, ça bouleverse un petit peu le paysage, hein, le livre papier, le livre numérique. Mais je crois que quel que soit le livre, qu'il soit numérique ou de papier, l'essentiel c'est de lire.
Mais est-ce que éventuellement, peut-être, on peut envisager plus de lectures, moins de lectures?
Ça, je ne sais pas. En France, pour l'instant, les pratiques de lecture ne sont pas pour le livre numérique en majorité. Mais ça va venir. Hein. Aux États-Unis, le livre numérique a une place très 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 importante.
Est-ce qu'un jour le livre papier peut disparaître selon vous?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le livre papier disparaisse.
Alors, les spécificités de cette rentrée littéraire en région, est-ce que vous avez quelques grandes lignes?
Les grandes lignes, alors ce sont des romans, hein, des textes de théâtre et des textes engagés, des policiers.
Merci beaucoup, Marie-Christine Chaz.
Avec plaisir.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héros,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales, Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En Lozère, Mende est la seule ville préfecture de région qui n'a pas encore de musée. Mais jusqu'au 21 octobre, ce sont 4 musées de la région qui sont expatriés dans la capitale lozérienne à travers l'exposition Transversale, une installation transmédia de muséographie itinérante. Il s'agit de 4 petits films tournés dans des musées du Languedoc-Roussillon. Le concept, filmer des œuvres d'art la nuit lorsqu'il n'y a pas de spectateurs, interviewer les visiteurs en journée sur ces mêmes œuvres, créer une bande de son et mixer le tout dans un court-métrage. De plus, les spectateurs de l'installation deviennent acteurs et ils sont invités à partager à leur tour leur ressenti dans un espace interactif. Corinne Cartaillac nous parle de son exposition.
Il va pouvoir découvrir 4 musées du Languedoc-Roussillon, musée Fabre, le musée d'art contemporain de Sérignan, les musées archéologiques de Narbonne, le musée d'art moderne de Céré, sous forme de petits courts-métrages avec une approche assez originale, basée sur l'émotion du public, et ensuite, à son tour, s'interroger et partager au niveau de son ressenti, de ses émotions, sur un espace interactif, en partage avec les musées, par liaison webcam et dépôt de brefs de musée. C'est une interrogation commune sur son ressenti et un partage de la perception de l'œuvre d'art et de l'univers muséographique. Une incitation à partager.
Vous parliez de confidence tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que c'est un terme que j'aime bien de cette installation. C'est un partage de confidence que l'on a rarement l'occasion d'exprimer lors de la visite d'un musée.
Didier Lannoy est parti, lui, avec son micro dans les musées pour capter le ressenti des spectateurs.
Je suis allé chercher l'émotion, le ressenti, ce que les gens peuvent penser
tout bas et n'ose pas dire tout haut, dans un musée. Donc dans un premier temps, nous sommes allés avec uniquement un micro, enregistrer justement ses ressentis, ses émotions, des journées entières, voilà, dans les quatre musées. Ensuite, on est retourné filmer l'image au moment où le public n'est pas là, absent. Donc on ne voit jamais personne dans l'image, mais on les entend dans le son. Et cette captation des émotions se faisait selon, évidemment, ce qu'ils avaient envie ou pas envie de dire. C'est pas évident parce que les gens ne vont pas dans un musée pour parler. Ils viennent pour observer des œuvres. Et souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ou en tout cas, ils n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Donc il fallait trouver une façon de les amadouer et de les faire parler de façon simple sur ce qu'ils ressentaient.
Un aperçu de la bande son tout de suite.
Ben là, c'est de l'art contemporain et les tableaux, c'est de l'art, tout simplement. L'art contemporain, c'est un peu en relief. Et puis l'art, c'est plutôt plat et régulier.
C'est vrai, quand on voit ces vieux cailloux, qu'on s'imagine nos arrière-arrière-arrière grands-pères qui ont dû sculpter ça ou qui avaient ça dans leur jardin, on se sent tout petit. Hein.
C'est presque une thérapie quand je me trouve devant une œuvre de Soulage. Tout d'un coup, j'ai l'impression de me sentir bien si je reste à regarder, c'est-à-dire essayer, pas de comprendre, mais de recevoir. Et moi d'émettre, et c'est à partir de là que me sens soulagé. Alors ça, c'est formidable.
C'est beau. Hein, c'est puissant.
Et cette exposition est visible à la Maison consulaire de Mende jusqu'au 21 octobre. L'entrée est libre. Un sujet de Ludovic Terol de 48 FM Mende.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Et c'est la fin de ce carnet de région dont la rédaction en chef était assurée par RCF Pays d'Aude cette semaine. Un grand merci à toutes les radios associatives qui ont participé. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure.